Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose tout de suite de réécouter l'émission diffusée le 14 février dernier. Ces dernières années, de nombreux livres et publications ont mis en lumière les pouvoirs inattendus du microbiote intestinal, surnommé le deuxième cerveau. Aujourd'hui, c'est d'un autre écosystème peuplé de centaines de millions de bactéries dont nous allons parler dans Priorité Santé. Un monde intime et méconnu, le microbiote vaginal, cet ensemble de micro-organismes qui peuplent le vagin et la vulve et que longtemps on a désigné sous le terme de flore vaginale. Une flore qui a coup d'antibiotiques, d'antifongiques et d'antiparasitaires, la médecine a tenté de rééquilibrer quand survenait cystite, mycose ou démangeaison. Cette démarche exclusivement hygiéniste, certains l'ont abandonnée au profit d'une approche qui parle aux femmes de leur confort, en comprenant ce qui au quotidien peut bouleverser ce fragile équilibre, qu'il s'agisse de changements hormonaux, de la prise d'un traitement ou encore d'une situation de stress. Cette approche s'attache en priorité à la qualité de vie pour respecter cette entité sensible et restaurer l'écologie du milieu intime féminin. Et le médecin en studio pour nous guider dans ce monde assez méconnu, c'est le docteur Jean-Marc Bobotte, infectiologue, andrologue, responsable de l'unité génitale et directeur médical de l'Institut Alfred Fournier à Paris, qui a co-signé avec la journaliste santé Rika Etienne l'ouvrage « Microbiote vaginal, la révolution rose » publié aux éditions Marabout. En deuxième partie de Priorité Santé, nous allons retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Sabine Liliou, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de district de Bogo-Dogo à Ouagadougou. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-Marc Bobotte, comment définir en des termes simples le microbiote vaginal ?
Microbiote vaginal, c'est un monde microbien qui est très 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 vaste, puisqu'il y a plus de 100 millions à 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale dans un vagin. Mais la grande majorité de ces germes sont des germes bénéfiques, qu'on appelle des lactobacilles, qui vont maintenir une acidité correcte à l'intérieur du vagin, de manière à empêcher le développement d'autres micro-organismes qui pourraient être pathogènes, soit des micro-organismes qui existent déjà à l'état normal dans le vagin, soit des micro-organismes qui viendraient de l'extérieur, par rapport sexuel par exemple.
Parce qu'il faut rétablir une première vérité, dans l'esprit des gens, une bactérie c'est agressif, et là c'est tout l'inverse, c'est ces bactéries qui protègent.
Bien sûr, il faut savoir que dans notre organisme, nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules vivantes. Il est tout à fait certain que si toutes ces bactéries étaient agressives, nous ne serions pas là pour en parler. Donc, fort heureusement, il y a beaucoup de bactéries qui sont bénéfiques et qui nous protègent justement contre des bactéries qui pourraient devenir dangereuses.
Alors, dans ce milieu particulier, le vagin, ces bactéries, on ne naît pas avec, c'est avec les années qu'elles arrivent, docteur Jean-Marc Bobotte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant l'enfance, le vagin est peuplé simplement de très peu de bactéries. Ce sont des bactéries qui viennent de la peau ou qui viennent du système intestinal à côté. Et puis avec l'adolescence et l'arrivée des hormones, eh bien la paroi de du vagin va changer complètement, va s'imprégner de substances qu'on appelle par exemple le glycogène sous l'influence des hormones, qui va permettre, c'est le carburant des lactobacilles. Et donc c'est ce carburant qui va permettre à ce vagin de se développer avec un microbiote de femme adulte. Et puis, à la ménopause, c'est-à-dire que quand les hormones commencent à chuter, eh bien là, on revient sur un microbiote un peu plus pauvre qui peut justement être à la source de désagréments comme des sécheresses ou des douleurs lors des rapports sexuels.
Alors, pourquoi on change de terme, docteur Jean-Marc Bobotte ? Pourquoi aujourd'hui vous employez justement ce terme de microbiote au masculin, alors que beaucoup pensent que c'est la microbiote, le microbiote, plutôt que flore vaginale ?
C'est simplement parce que les études qui ont commencé, comme vous le disiez en préambule sur l'intestin, ont parlé plutôt de microbiote. C'est un terme générique qu'on utilise dans le milieu scientifique. Moi, j'ai tendance à bien aimer la flore. Moi, j'aime bien ce terme de flore. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus bucolique que microbiote.
Et poétique, oui.
Donc, il est tout à fait probable que au cours de cette émission, j'utiliserai de manière soit flore, soit microbiote de manière égale.
Docteur Jean-Marc Bobotte, votre livre décrit les rôles multiples de cette flore vaginale. Un terme qui revient sans cesse pour parler de cet écosystème, c'est celui d'équilibre. C'est quoi exactement avoir un vagin équilibré, une flore vaginale équilibrée ?
Premièrement, c'est se sentir bien dans son vagin. Se sentir bien dans son vagin, c'est au quotidien. C'est pas simplement les infections. Bien sûr, il y a des infections. Mais c'est aussi pouvoir vivre normalement, se vêtir comme on a envie de se vêtir, ne pas souffrir de sécheresse, d'irritation, ne pas avoir de douleur lors des rapports sexuels. Vous savez, le vagin est un organe très particulier parce que c'est à la fois un organe qui va protéger les organes génitaux profonds, comme l'utérus ou les ovaires, qui vont permettre donc la grossesse. Et puis, il y a un deuxième rôle du vagin qui est un rôle sexuel, qui est un rôle de plaisir. Et donc, cette dualité fait que le vagin a longtemps été complètement tabou parce que la dimension plaisir est quelque chose qui est malheureusement encore très tabou dans le discours vis-à-vis des femmes et même dans le discours médical. Donc, se sentir bien dans son vagin, ça veut dire ne pas le sentir du tout.
Et justement, pour être équilibré, éviter les agressions, on va essayer justement de passer en revue ces différents types d'agressions. Quelles situations peuvent menacer cette santé gynécologique ?
Alors, il y a d'abord, bien sûr, les modifications hormonales, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'au moment de la ménopause, par exemple, il y a un léger déséquilibre qui se produit. Alors, il y a des femmes qui le supportent très bien, d'autres femmes qui le supportent moins bien. Et puis, en cours de vie aussi, il y a l'utilisation de certaines pilules qui sont pas suffisamment dosées ou qui sont trop dosées. Donc là, on peut rétablir l'ordre. Les problèmes hormonaux, c'est quelque chose qui peut provoquer des déséquilibres. Ensuite, il y a l'utilisation d'antibiotiques. L'immense majorité des antibiotiques a une action très violente sur la flore lactobacillaire, cette flore de protection. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement jeter aux orties les antibiotiques qui ont un rôle fondamental. Et en tant qu'infectiologue, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'il faut continuer à donner des antibiotiques. Mais quand une femme est fragile au niveau vaginal, il faut toujours accompagner ce traitement antibiotique de probiotiques, par exemple, qui sont des lactobacilles de remplacement et qui vont empêcher ce déséquilibre de la flore.
Et justement, d'ailleurs, ça se fait quand on prend des antibiotiques au niveau intestinal, eh bien, on prend des fois aussi des probiotiques pour compenser la destruction des bactéries saines dans les intestins. Donc, c'est la même démarche.
Vous avez tout à fait raison, sauf qu'il faut faire très attention que les probiotiques à visée intestinale ne sont pas les mêmes que ceux à visée vaginale. Ce sont des souches tout à fait différentes. Donc, on a des femmes qui ont eu l'habitude, ça vient de Californie, de se mettre du yaourt, par exemple, dans le vagin, quand elles ont des problèmes, les lactobacilles du vagin ne sont pas les lactobacilles intestinaux.
Et on va le voir, tout un tas de produits qu'on utilise, et en gros, très peu de choses qui sont conseillées à mettre dans le vagin, sauf, vous le disiez, les probiotiques qui sont destinés précisément pour ça. Alors, d'autres facteurs de déséquilibre, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est la cigarette, le tabac.
Oui. On considère qu'au-delà de 4 cigarettes par jour, c'est pas une permission pour fumer 4 cigarettes par jour, mais au-delà de 4 cigarettes, ce qui est très peu, on a des risques de déséquilibre de la flore vaginale. D'une part parce que le tabac contient des composants très agressifs pour la muqueuse vaginale, et puis surtout ça diminue le taux d'hormones dans le sang, donc ça diminue le taux d'hormones dans le vagin et les lactobacilles s'en portent très mal.
Et la sexualité aussi, elle peut interférer sur cet équilibre, docteur Bobotte ?
Alors, la sexualité, en général, non. Un vagin qui est en bon état, le contact avec le sperme ne pose aucun problème particulier, puisqu'il y a immédiatement après l'éjaculation, il y a une mise en route de systèmes qui vont rééquilibrer immédiatement donc le système de la flore vaginale. Donc, il ne faut pas redouter, sauf, bien sûr, à attraper des infections sexuellement transmissibles, mais c'est un autre domaine.
Un autre domaine. Vous restez avec nous, docteur Jean-Marc Bobotte. On va donner la parole aux auditrices et peut-être aussi aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cette première auditrice nous appelle du Congo, de Brazzaville, et c'est Loïka qui est en ligne. Loïka, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, vous pouvez poser votre question au docteur Jean-Marc Bobot.
Alors, bonjour docteur. Ma question émane un peu d'un dilemme par rapport aux soins intimes et tout. Alors, nous, on a nos mamans qui, d'un côté, nous déconseillent l'utilisation ou l'usage des savons ou des bains intimes et nous proposent l'usage abondant de l'eau fraîche. Et de l'autre, bien entendu, il y a des gynécologues qui, eux, nous proposent l'usage des bains intimes ou des savons. Alors moi, ma question, c'est de savoir quel est le comportement à avoir ou le conseil à suivre.
Question très simple, hein, sur la toilette, est-ce qu'il faut utiliser un produit pour se laver ?
Alors, première réponse, oui, bien sûr, il faut utiliser un produit dédié. Et j'insiste bien quand même sur cette notion. Et malheureusement, il y a beaucoup de gynécologues en France aussi qui disent, mais vous savez, tous ces produits d'hygiène, c'est un petit peu pour faire gagner de l'argent au laboratoire. Vous avez des problèmes, lavez-vous à l'eau. Eh bien non, l'exposition prolongée à l'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement agressif pour la vulve, pas pour le vagin. Ça provoque un dessèchement. Il suffit de faire l'expérience que font tous les enfants. Vous trempez votre doigt dans l'eau pendant 2 minutes, vous le ressortez, il est complètement desséché. Donc l'eau est un produit qui retire le film de protection, qui donc ce film hydrolipidique, et donc qui va exposer la vulve à une sécheresse. Donc il faut pas se laver uniquement à l'eau. En tout cas, vous pouvez vous laver une fois de temps en temps à l'eau, mais se laver tous les jours à l'eau de manière répétitive, c'est exactement ce qui peut conduire à la sécheresse. Pas nécessairement au déséquilibre de la flore, mais en tout cas à l'inconfort au niveau vulvaire. Et puis les autres produits, comme les savons, style savon de Marseille ou savon d'Alep, sont malheureusement des produits qui sont assez inadaptés parce que ils ont une acidité qui est absolument insuffisante. Ils ont un pH, nous en médecine on appelle ça un pH, qui est très alcalin. Et donc la peau doit garder une acidité aux alentours de maximum 6 ou 7 et certainement pas un pH 10 comme on voit avec le savon de Marseille par exemple. Donc faire confiance à des produits qui ont été testés en laboratoire, ou testé par des femmes et que vous recommande le gynécologue.
Mais vous comprenez bien, docteur Bobot, au quotidien, les femmes n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces produits tous les jours. Pour des produits de grande consommation, accessibles à toutes, qu'est-ce qu'on peut conseiller ?
Alors, il faut à ce moment-là utiliser, ne pas se laver trop souvent, puisqu'encore une fois, donc c'est surtout l'excès d'hygiène, comme le défaut d'hygiène d'ailleurs, qui peut être gênant. Donc, et si on n'a pas les moyens, donc on peut utiliser une fois par jour un savon en prenant soin de ne pas décaper trop, c'est-à-dire de bien rincer et de bien sécher après. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, n'utiliser le savon qu'une fois par jour, et puis l'autre toilette, si on veut faire une autre toilette, la faire à l'eau, mais sécher le plus rapidement possible. Et puis, quand même, une fois de temps en temps, utiliser un produit d'hygiène dédié.
Et en tout cas, quand il y a un problème, absolument recourir à ça.
Oui, absolument.
Voilà.
Oui.
Merci beaucoup pour votre question, Loïcia de Brazzaville. On va rester au Congo-Brazzaville, hein. On va aller à Pointe-Noire en compagnie de Michel. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
Bonjour Michel.
On écoute votre question.
Voilà, ma question, je voudrais savoir, ça fait un moment, j'ai des boutons entre les cuisses et sur la vulve. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est dû aux infections ? Parce que je suis allée voir un gynécologue, j'ai expliqué mon problème. Il m'a demandé de faire un prélèvement vaginal et le résultat, il n'y avait rien de sale, s'il faut dire comme ça. Il m'a quand même prescrit un antibiotique, j'ai suivi le traitement. Mais quelque temps après, ces boutons ont encore réapparu. Alors je suis repartie voir cette fois-ci, je suis allée voir un dermato. J'ai expliqué le problème. C'est une dame, elle m'a dit de ne pas trop la façon de me raser. J'utilise dorénavant les ciseaux, parce que j'avais l'habitude d'utiliser un rasoir ou une tondeuse. Et elle m'a donné un autre traitement, des comprimés et une pommade à appliquer pour les boutons. C'est fini, mais c'est encore réapparu. Alors, j'ai changé même de lingerie. Je porte maintenant des sous-vêtements en coton. Mais ces boutons-là persistent toujours. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est dû aux infections ou... Et mon autre question, c'était les pertes blanches. Généralement, tous les matins, j'ai des pertes blanches qui durent au moins 30 à 40 minutes et puis bon, ça disparaît. Est-ce que c'est normal ou... d'avoir les pertes d'onges tous les matins.
Deux questions différentes de la part de Michel. Oui. On va dire, il y a une question qui concerne la partie externe.
Absolument.
Et puis l'autre, c'est interne, c'est pas du tout la même chose.
Alors, en ce qui concerne les boutons, il est évident que je peux difficilement vous répondre sans vous examiner, mais d'après ce que je comprends, si c'est lié plutôt au rasage ou à l'épilation, il faudra qu'on en dise un mot parce que l'épilation c'est aussi catastrophique pour la zone génitale, mais enfin pour le rasage, effectivement, on a souvent des irritations de la racine des poils qui se produisent à la suite du rasage et donc ça peut provoquer des petites plaies minuscules qui sont une porte d'entrée pour des microbes et ça donne des boutons. C'est ce qu'on appelle une folliculite, c'est-à-dire que ce sont des micro-infections qui apparaissent comme ça. Maintenant, ces micro-infections, elles peuvent apparaître même en dehors du rasage, en particulier chez des femmes qui sont diabétiques ou chez des femmes qui ont des maladies plus générales. Donc, il faudrait peut-être faire des analyses en ce sens pour vérifier si ces boutons reviennent régulièrement, si par hasard, vous n'avez pas un petit peu trop de sucre dans le sang. Mais encore une fois, sans examen clinique, j'ai un petit peu de mal à vous faire un diagnostic précis. Alors,
deuxième question sur les pertes blanches.
Alors, les pertes blanches, d'abord, il faut savoir que le vagin est auto-nettoyant. C'est-à-dire que il est normal que vous ayez des pertes qui sont simplement l'évacuation de tous les débris microbiens et de tous les débris cellulaires qui se renouvellent au cours de la journée. Mais la nuit, comme vous êtes couché, il est évident que ces sécrétions ne peuvent pas s'extérioriser. Dès que vous vous levez, eh bien, les sécrétions commencent à tomber et si elles disparaissent spontanément en 30 minutes, il n'y a vraiment rien à craindre. Vous savez, de toute façon, des pertes qui sont pathologiques, c'est-à-dire des pertes qui sont liées à des infections, ça donne pas uniquement des pertes, ça donne deux autres symptômes qui sont importants, soit des démangeaisons ou des brûlures très importantes, soit de très mauvaises odeurs. À partir du moment où vous avez des pertes qui vous démangent pas ou des pertes qui sentent pas mauvais, vous pouvez être tranquille, c'est des pertes qu'on appelle physiologiques et qui sont normales.
Michel, ce conseil du docteur Bobot, pas d'inquiétude pour vos écoulements, on va dire, et par contre, pour les boutons, peut-être aller tout simplement reconsulter et faire des examens pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière ces boutons qui reviennent de façon récurrente. Merci beaucoup de votre appel de Pointe-Noire au Congo. Il nous reste quelques minutes. On va quand même prendre Merveille qui est en ligne du Togo de Lomé. Bonjour Merveille.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, mon problème le voici. J'ai souvent des infections vaginales. Je l'appelle comme ça en tant que profane. Donc, il s'agit de démangeaisons, de picotements et des plaies que je peux dire que je sens à l'intérieur du vagin et sur la vulve. Je prends les précautions, mais ça revient de temps en temps après les traitements. Donc, un gynécologue m'a dit que c'est lié à des ovaires, à mes ovaires qui sont micro-polykystiques. Et je fais souvent de l'acné. Donc, elle m'a dit que mon mal ne peut pas être complètement guéri. Très récemment, j'ai encore ressenti la même chose. Je suis allée en consultation. On m'a prescrit un PV qui a été fait, fer et délai négatif. Il n'y avait pas de mycose, pas de candida. La flore était normale. Et ce que le médecin m'a dit, c'est qu'il peut s'agir d'un déséquilibre de la flore. Et ça peut être lié à ça. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur la question.
Docteur,
et je précise également que je ne fais pas de toilette intime.
Docteur de toilette interne, hein, docteur Jean-Marc Bobot.
Oui, alors, vous avez raison de dire que le prélèvement vaginal est extrêmement important parce que beaucoup de femmes considèrent qu'à partir du moment où elles ont des démangeaisons, c'est forcément une mycose. Et on a démontré que dans plus de 50% des cas, c'est pas des mycoses. Ça peut être d'autres infections ou ça peut être ce qu'on a trouvé chez vous, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, le déséquilibre de la flore peut être lié à un déséquilibre hormonal. Or, avec des ovaires polykystiques, c'est tout à fait clair que vous avez sûrement un déséquilibre hormonal. Donc le meilleur traitement pour rééquilibrer cette flore, c'est de faire des cures répétitives, une semaine par mois par exemple, avec des probiotiques à mettre dans le vagin. Ça va rééquilibrer la flore, quel que soit votre état hormonal.
Et Merveille peut les trouver où? En pharmacie?
Oui, il faut demander conseil à son pharmacien parce qu'il y a beaucoup de probiotiques et il y en a beaucoup aussi qui sont inefficaces.
Vous restez avec nous, docteur Jean-Marc Bobot. On va se retrouver d'ici quelques petites minutes, hein, toujours pour poursuivre cet échange sur le microbiote vaginal. Mais tout de suite, pause musicale, c'est avec les Amazones d'Afrique. Oh, Les Amazones d'Afrique sur RFI. On se retrouve toujours sur Priorité Santé. Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Marc Bobotte, infectiologue, andrologue, responsable de l'unité génitale et directeur médical à l'Institut Alfred Fournier à Paris. Docteur Bobotte, vous avez signé avec Rika Etienne le livre « Microbiote vaginale, la révolution rose » aux éditions Marabout. Alors, ce sous-titre « Révolution rose », qu'est-ce que ça signifie précisément ?
Eh bien, ça va être une autre manière d'envisager tous les petits problèmes ou même les problèmes plus graves de la gynécologie. C'est-à-dire qu'avant, en particulier en matière infectieuse, on s'adressait essentiellement à des antibiotiques, à des antifongiques, à des antiparasitaires. Donc, il est tout à fait certain qu'on pourra continuer à les utiliser. Mais il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi ces infections, après les antibiotiques, reviennent régulièrement. Et ça, c'est la question qu'on s'est posée avec un certain nombre de spécialistes, pour se rendre compte qu'il fallait plutôt prendre en compte le terrain plutôt que la bactérie qu'on trouvait. Et c'est la raison pour laquelle on essaie à l'heure actuelle de renforcer la flore vaginale plutôt que de décaper cette flore à force d'antibiotiques. Et c'est cette révolution qui va permettre aux femmes de retrouver des défenses naturelles, physiologiques, plutôt que de prendre des antibiotiques ou des antifongiques. Et cette révolution, elle s'applique aussi probablement, là on est en travaux là-dessus, aux troubles de la ménopause, c'est-à-dire à la sécheresse, aux douleurs lors des rapports sexuels, où les probiotiques ont sûrement un rôle fondamental à jouer.
Pour bien comprendre, docteur Jean-Marc Bobotte, tous ces troubles, ces maladies, on parle de mycose, vaginose, cystite, candidose, c'est dû au déséquilibre ou c'est dû à quelque chose qui vient de l'extérieur, si l'on peut dire ?
L'immense majorité des infections génitales ou des infections urinaires, c'est lié à un déséquilibre de la flore vaginale. Il n'y a que 5 à 10% grand maximum de ces infections qui sont liées à des infections sexuellement transmissibles. Je vous ai dit que dans un vagin de femme normale, il y avait 100 millions à 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale. Il y a 90% de bonnes bactéries, mais il y a aussi 10% de micro-organismes qui peuvent parfaitement du jour au lendemain devenir agressifs si les défenses ne fonctionnent plus. Donc que ce soit cystite, que ce soit mycose, que ce soit vaginose, tout ça ce sont des bactéries qui existent ou des levures qui existent à l'état normal dans le vagin et qui vont profiter d'une faiblesse des lactobacilles pour se développer et provoquer une infection. Donc c'est en renforçant ces lactobacilles que l'on va limiter le risque de récidive et ça va permettre d'économiser les antibiotiques qui sont tellement précieux pour d'autres problèmes.
Alors, un des messages de votre livre, hein, si on résume, c'est « Halte au décapage, les sécrétions sont bénéfiques ». Et on le comprend en écoutant les questions des auditrices, les messages qu'ils nous envoient aussi sur Facebook. Il y a des pratiques qui sont assez, pour le moins, étonnantes. En tout cas, absolument pas recommandées, docteur Jean-Marc Bobotte.
Oui, là, il faut être très clair. Tout ce que l'on peut utiliser dans le vagin, que ce soit pour la toilette, que ce soit des habitudes ancestrales, de mettre des plantes, de mettre des pierres, de mettre d'autres substances pour...
Mais y compris de l'eau.
Y compris de l'eau. Oui, absolument. Il y a un système de défense qui est parfaitement organisé dans le vagin et tout ça, ça peut se déséquilibrer tout simplement en mettant des produits à l'intérieur du vagin. Donc, respecter cet auto-nettoyage qui est parfaitement physiologique, parfaitement régulier et qui donne, comme l'auditrice précédente le disait, quelques pertes le matin, mais qui sont des bonnes pertes. Ça veut dire que le vagin est en train de se renouveler et c'est plutôt bon signe.
Avec des idées complètement fausses, par exemple, vous nous avez parlé tout à l'heure rapidement de l'acidité de la flore vaginale. Alors, il y a des associations d'idées saugrenues, par exemple, acidité, citron, oui. Des gens qui se mettent du jus de citron, là encore, cette acidité n'a rien à voir.
Ah oui, non, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le jus de citron, c'est très bien, mais à boire, à mettre dans le vagin, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être agressif, parce que là, on est vraiment sur une trop grande acidité.
Et on est même dans la brûlure.
On est carrément dans la brûlure. C'est comme si on se mettait de l'acide sur une plaie. Hein. Donc, bien évidemment, éviter absolument.
Et vous expliquez aussi dans votre livre, ça permet de comprendre ce pH très important à l'intérieur du corps de la femme, dans son vagin, en fonction de l'âge, du cycle menstruel. Ça permet de comprendre aussi un phénomène rare mais très grave, ce phénomène, c'est le choc toxique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il est important d'avoir une acidité comprise entre 3,5 et 4,5, c'est l'acidité normale du vagin, pour maintenir en respect toutes les bactéries qui peuvent se développer. Aucune des bactéries qui accompagnent les lactobacilles ne se développe tant que le pH reste acide entre 3,5 et 4,5. Par contre, comme le sang est très alcalin, s'il y a du sang qui stagne pendant longtemps dans le vagin, c'est-à-dire une femme qui utilise un tampon et qui ne change pas très régulièrement, eh bien, l'acidité disparaît, ce milieu devient propice au développement d'un certain nombre de bactéries, dont ce fameux staphylocoque doré, qui peut provoquer à ce moment-là de la production de toxines qui peuvent être extrêmement graves. Attention, c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais qui ne représente fort heureusement que 10, 15 ou 20 cas par an en France. Mais il faut bien dire et bien rappeler qu'un tampon, ça doit se changer régulièrement, surtout en début de cycle, quand on a beaucoup de sang. À ce moment-là, il ne faut pas laisser le sang stagner dans la cavité vaginale.
Alors, on l'a compris, un certain traitement, certaines variations hormonales, certaines habitudes de tous les jours peuvent provoquer des déséquilibres. On en parle avec vous, docteur Sabine Liliou. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour
Docteur. Bonjour.
Docteur Liliou, vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital de district de Bogodogo à Ouaga au Burkina Faso. Est-ce que les femmes qui viennent vous consulter savent ce qu'est la flore vaginale, Docteur Liliou?
Les femmes qui viennent nous consulter, elles savent toujours ce que ça veut dire. Et c'est comme une de vos auditrices le disait, ben, elle a des têtes et c'est ce qu'elles disent habituellement. Il se trouve que dans la plupart du temps, il s'agit de têtes physiologiques.
Donc des femmes en bonne santé qui viennent même vous voir pour dire « j'ai des pertes blanches, ça m'inquiète », vous les rassurez. Est-ce que c'est tabou, cette méconnaissance a des conséquences sur la santé de ces femmes?
Bien sûr, à partir du moment où on sait faire de l'automédication et se mettre des ovules qui n'ont pas le droit de citer. Elles peuvent également demander à des copines des solutions qui ne sont pas la bonne.
Avec des produits qui ne sont pas indiqués, j'imagine aussi, docteur Sabine Liliou, que vous êtes confrontée à des personnes qui font, on va dire, des toilettes trop intimes. On parle même carrément de toilettes internes.
Tout à fait. Et la plupart du temps, d'ailleurs. Et quand elles veulent être propres dehors, elles veulent être propres dedans également. Et c'est comme on le dit, elles ont tendance à utiliser beaucoup plus les solutions diverses, et l'eau en particulier, et également d'autres produits qui sont de nature inconnue. Parce qu'entre copines, elles ont des petits secrets qu'elles se passent. Ce n'est pas toujours évident.
Qu'est-ce que vous faites justement face aux problèmes gynécologiques que peuvent provoquer ce type de pratique? Vous avez une réponse, j'imagine, à la fois médicale et pédagogique, docteur Sabine Liliou.
Oui, bon. Quand elle vient en consultation, en effet, dans notre échange, de savoir exactement comment elle pratique les gènes intimes. C'est à partir de ce qu'elles vont dire que nous allons procurer des conseils. Parce que pour la plupart, c'est la méconnaissance aussi de l'anatomie. Et cette zone du corps est méconnue des femmes. Et elles ont tendance à aller partout et à beaucoup plus manipuler la sphère du côté périanal et également la sphère génitale pure. Et donc, on assiste le plus souvent à un échange de germes en fait.
Merci docteur Sabine Liliou. Docteur Liliou, je suis désolée, la ligne n'était pas très bonne, on va abréger cet échange. Merci, vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital de district de Bogodogo à Ouagadougou. On vous retrouve, docteur Jean-Marc Bobot. Alors on l'entend, hein, au Burkina comme en France, pas forcément pour les mêmes raisons. On se rend compte que les femmes ne savent pas forcément prendre soin de leur hygiène intime. À quel moment le message ne passe pas ? C'est entre mère et fille ? C'est simplement avec le docteur, le généraliste aussi, qui n'explique pas, tout simplement, la pédiatre qui n'explique pas ?
Alors, il y a quelque chose de très très important qu'a dit notre confrère, c'est qu'elle pose la question qu'est-ce que vous faites comme hygiène, comme toilette, qu'est-ce que vous utilisez? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas rentré encore dans les mœurs, en particulier en France. L'hygiène, c'est quelque chose que l'on considère comme totalement superflu et subalterne. On va directement traiter l'infection sans se poser la question, mais pourquoi cette infection est arrivée? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des comportements à risque comme l'utilisation de produits inadaptés, etc. Donc c'est vrai que le message pédagogique, c'est que les mamans commencent effectivement à apprendre aux petites filles que cette zone est une zone particulière, qu'elle doit se laver de manière particulière avec des produits doux. Ne pas se retenir d'uriner pour une petite fille, ça c'est très important puisqu'on sait très bien que ça peut provoquer des irritations vulvaires. Mais c'est vrai que comme les mamans ont aussi des problèmes pour gérer leur propre hygiène, je pense que c'est aux professionnels de santé de faire l'éducation, que ce soit les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les infirmières. Et quelque chose de très important que je voulais dire, puisque notre confrère est obstétricienne, c'est que ce déséquilibre de la flore n'est pas simplement un problème de confort, ça peut provoquer aussi pendant la grossesse des risques majeurs de prématurité. Et ça, c'est un véritable fléau, parce qu'on sait que la prématurité, c'est un risque de mortalité ou de maladies ultérieures qui seront extrêmement graves pour l'enfant.
Des idées fausses chez les femmes. Pas mal d'idées fausses aussi, hein, on le voit dans le dernier chapitre de votre livre, les idées fausses que se font les hommes du sexe féminin. Docteur Jean-Marc Bobot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Oui, alors autant les femmes connaissent assez mal leur anatomie, autant les hommes, c'est une vraie catastrophe. Et c'est vrai que ils ont tendance à croire... D'abord, c'est un univers un petit peu mystérieux que ce vagin. Moi, j'ai coutume de dire que c'est le début et la fin, puisque c'est par là que va pénétrer le spermatozoïde, donc c'est le début. Et la fin de la gestation, c'est le vagin, c'est la première fenêtre que le bébé va voir sur le monde. Donc cette espèce de zone
porte,
magique.
C'est une porte sur la vie.
Et cette zone un peu magique, les hommes en ont peur. Et il suffit qu'il y ait quelques odeurs. Alors ça, en plus, on est dans une société où on supporte plus les odeurs corporelles.
Et vous l'expliquiez, il y a quelques siècles de ça, c'était tout l'inverse. C'était voilà, très sexy.
Absolument, c'était très sexy. Mais là, maintenant, c'est une catastrophe. Donc tout le monde sent le 5 de Chanel quand on a les moyens. Et ce qui est tout à fait préjudiciable, à la fois pour la santé et puis pour notre comportement sexuel d'individu à individu. Donc se laver c'est bien, se décaper et sentir tous la rose c'est certainement pas une bonne idée. Donc les hommes, déjà les hommes ont un certain nombre de problèmes avec leur propre hygiène, hein, ça il faut dire ce qui est, et probablement qu'on fera un chapitre supplémentaire sur l'hygiène masculine.
Là aussi j'imagine pas mal de produits à éviter. On va prendre une auditrice en ligne, c'est Keren qui est en ligne de République démocratique du Congo, de Kinshasa. Bonjour Keren. Keren, alors une question là encore sur la toilette intime, on vous écoute.
Que je pose ma question?
Absolument, on vous écoute Keren.
Voilà, hier j'ai vu votre publication sur Facebook et vous étiez en train de parler sur la flore vaginale.
Oui.
Lorsque j'avais posé la question de savoir, quand on utilise souvent le savon ici à Kinshasa, les gens disent que les savons diminuent l'acidité de la flore vaginale. Et en cas de cette diminution, qu'est-ce doit-il faire pour augmenter l'acidité du vagin, quoi?
Alors, première des choses, on ne met rien dans le vagin. Donc, l'acidité du vagin, pour respecter l'acidité du vagin, c'est déjà ne se rien mettre dans le vagin. Donc, on fait une différence entre l'acidité du vagin et ce qui se passe à l'extérieur, au niveau de la vulve, c'est-à-dire à l'extérieur, sur la peau, sur le sexe extérieur. Il n'y a pas d'acidité, il y a juste un équilibre que l'on doit trouver, mais il ne faut jamais utiliser utiliser un produit d'hygiène en se disant je vais prendre un produit d'hygiène qui respecte l'acidité du vagin puisqu'on se met rien dans le vagin. Donc il faut utiliser des produits doux pour la toilette, des produits qui sont pas déshydratants, des produits qui ne sont pas irritants, mais l'acidité, j'allais dire, on s'en fiche un peu puisque encore une fois, on ne fait qu'une toilette à l'extérieur et pas à l'intérieur.
Voilà pour cette réponse, Keren. Merci beaucoup de cet appel. On passe tout de suite à Jaina qui est au Sénégal, donc à Dakar. Bonjour Jaina.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, en fait, ma question, c'est à savoir, après les règles, tout juste après, une journée après les règles, j'ai l'habitude de voir que j'ai des bactes blanches qui ressemblent plutôt à du fromage entrecoupé. En fromage, mais du fromage entrecoupé et du fromage blanc. Et elle n'a pas d'odeur, mais c'est juste qu'en fait, à l'extérieur du vagin, elle est irritante. Donc, je suis obligée de me mettre du cyclopyroxalamine, le Nicoster, 1%, pour pouvoir ne pas m'irriter, ne pas avoir des irritations. Et à chaque fois, sinon, je fais un nodule de beurre de karité, que après rinçage à l'eau du vagin, quand je mets le beurre de karité la nuit, je me réveille le matin et puis tout le restant du cycle, je n'ai plus ce problème de pertes blanches ressemblant à du fromage.
Donc, docteur Jean-Marc Bobot, des pertes qui sont irritantes que Jaina traite avec un ovule de beurre de karité.
Du Mycoster, si j'ai bien compris aussi. Alors... le beurre de karité, c'est quelque chose qui est relativement hydratant et qui, a priori, ne pose pas de problème, à condition que ce soit un beurre qui soit pur et qui soit pas un petit peu trafiqué. Ce qui me semble un petit peu étonnant, c'est que si ça se produit après chaque règle, il faudrait peut-être envisager un traitement de fond, parce que si ça se produit après les règles, ça veut dire que votre vagin est déséquilibré après les règles et qu'il laisse se développer des champignons. Donc, le beurre de karité, si ça vous soulage, pourquoi pas. Mais si vous voulez un traitement de fond, je pense qu'il faudrait envisager avec votre gynécologue de faire des cures de probiotiques pour remettre un petit peu de défense au niveau du vagin, ce qui évitera ces récidives incessantes qui se produisent généralement juste avant les règles ou juste après les règles. C'est vraiment la preuve que vous avez un déséquilibre de la flore.
Voilà, Jaina, pour ces explications du docteur Jean-Marc Bobot. Justement, on va revenir sur ces probiotiques. Comment se passe la prise? On va parler très concrètement, parce que les probiotiques, on les connaît en général pour ne pas avoir mal au ventre, on les prend par la bouche, donc j'imagine ça peut être différent, et aussi la fréquence de leur prise.
Alors d'abord, pour l'instant, on considère que le meilleur moyen de redonner des défenses à la flore vaginale, c'est d'utiliser les probiotiques par voie vaginale. Tout simplement parce que les probiotiques qu'on prend par voie orale ont quand même un long chemin avant d'arriver au niveau du vagin. Et donc, il y a une grande déperdition. Et il faut quand même une quantité de probiotiques, c'est-à-dire de lactobacilles suffisante pour pouvoir arriver intact au niveau du vagin. Alors, je ne dis pas que dans les années qui viennent, on fera pas des progrès sur les voies orales, c'est-à-dire sur les voies d'administration par voie orale, avec des encapsulages et des choses comme ça. Mais pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux privilégier les ovules, les gélules qu'on leur met dans le vagin.
Est-ce que telle ou telle bactérie, donc contenue dans les probiotiques, on l'a bien compris, est recommandée pour telle ou telle affection ?
Alors, ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre que toutes les femmes ont un profil un peu différent. C'est-à-dire que il n'y a pas une flore vaginale standard pour toutes les femmes. Donc, il y a quelques différences et on a fait des études en démontrant que la majorité des femmes hébergeaient une souche de lactobacilles bien particulière qui s'appelle Lactobacillus crispatus. Il y en a d'autres, comme le Gasseri, qui sont assez fréquentes. Donc, on a plutôt tendance à donner des probiotiques qui contiennent ces souches qui sont, entre guillemets, majoritaires dans la population féminine. Donc, il faut plutôt privilégier ce type de lactobacilles que l'on retrouve dans un certain nombre de produits. Donc, c'est comme ça qu'on choisit les bonnes souches de lactobacilles et il faut demander conseil à son pharmacien. Après... eh bien, on l'utilise en fonction des pathologies. Moi, je donne en général une semaine par mois, pendant plusieurs mois, des ovules à mettre dans le vagin. En fonction du type de pathologie, si c'est des mycoses, si c'est des vaginoses. Et donc, il faut faire des traitements pendant plusieurs mois pour rééquilibrer de manière pérenne la flore vaginale.
Docteur Jean-Marc Bobot, hein, on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes infectiologue. Il y a cette question Facebook d'un auditeur de Priorité Santé de Cotonou au Bénin, c'est Gilles. Est-ce qu'une femme qui a une infection vaginale peut contaminer son époux? Question très basique.
Question très basique, mais qui est du quotidien. Effectivement, il a raison de la poser. L'immense majorité des infections vaginales ne sont pas transmissibles à l'homme. C'est-à-dire que ce soit la mycose, que ce soit... Alors, les mycoses, les hommes peuvent faire des mycoses au niveau génital, mais bien souvent, ce sont eux aussi des hommes qui ont des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire qu'ils soit ils se décapent trop, soit ils se lavent pas assez. Mais autrement, une femme qui a une mycose à répétition, c'est absolument pas la peine de traiter le partenaire. Il y a aucune raison, il n'y a pas de transmission. Pour d'autres infections comme la vaginose bactérienne, là non plus, il n'y a pas de transmission sexuelle. Il y a un certain nombre de microbes qui font partie des infections sexuellement transmissibles, qui ne viennent pas directement du vagin, qui sont plutôt transmises par l'homme. Et là, effectivement, il faut traiter les deux. Mais quand une femme fait une mycose, il n'y a aucune raison de traiter son partenaire. Ce n'est pas transmissible.
Et pour répondre à cette question de Gilles, on peut poser la question dans l'autre sens. C'est peut-être le partenaire qui a aussi provoqué cette infection vaginale chez sa femme ou chez son ami?
Alors, la réponse est non, c'est au sens que ces microbes existent à l'état normal déjà dans le vagin, et c'est parce que le vagin est déséquilibré, c'est pas parce que le partenaire a quelque chose.
D'accord.
En revanche, comme on l'a dit, comme le sperme est très alcalin, il diminue l'acidité vaginale, et donc il permet à certains microbes qui existent à l'état normal dans le vagin de se développer s'il n'y a pas suffisamment de flore vaginale correcte. Donc, l'homme agit non pas comme un transmetteur de microbes, mais comme le révélateur d'une fragilité au niveau du vagin. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les femmes disent « bah oui, mais moi ça se produit après chaque rapport sexuel ». Bien sûr, mais c'est pas une transmission de microbes, c'est simplement parce que le sperme altère les défenses au niveau du vagin.
Alors, on a parlé des habitudes de vie, on a parlé de l'usage du tabac donc à proscrire quand justement pour ce déséquilibre. Et il y a aussi des éléments au niveau de la nourriture, de l'alimentation, de la boisson, qui peuvent avoir des incidences, voire des effets bénéfiques sur l'équilibre de cette flore vaginale, docteur Jean-Marc Bobot.
Alors, ce qu'on sait, c'est que des patientes qui sont diabétiques, par exemple, on sait qu'elles sont exposées davantage aux infections, pas simplement les infections vaginales, mais les infections en général. Donc, il faut redoubler d'attention à la fois sur l'hygiène et puis éventuellement faire des traitements préventifs avec des probiotiques. Et puis, il y a au niveau des cystites, il faut dire, par exemple, que l'équilibre de la flore vaginale est souvent en cause. Tout simplement parce que les microbes qui contaminent la vessie sont souvent ce qu'on appelle des colibacilles. Et comme leur nom l'indique, ces colibacilles viennent directement de l'intestin, mais transitent par le vagin. Et bien souvent, si le vagin n'a pas de défense correcte, il va y avoir une prolifération de ces colibacilles et un risque de transmission au niveau de la vessie. Donc, un, il faut équilibrer le vagin. Et deux, il faut boire beaucoup. Très important pour éviter les cystites.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Bobot, de nous avoir éclairé sur l'intimité féminine. On rappelle le titre de ce livre que vous avez co-signé avec Rika Etienne, Microbiote vaginal, la révolution rose, publié par les éditions Marabout. Les bienfaits de l'activité physique pour la santé, on en parle avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et aujourd'hui, on va parler de l'asthme. L'asthme, une maladie assez fréquente, elle concerne pas mal de nos auditeurs, notamment les plus jeunes. Premier point, définition de l'asthme. Comment est-ce que l'on sait que l'on souffre de cette maladie?
Alors, absolument Caroline, il faut savoir que 10% des enfants en âge scolaire sont porteurs d'un asthme, souffrent d'un asthme. Alors généralement, c'est dépisté par le médecin de famille ou le pédiatre, quelquefois lors des bilans qui sont faits pour avoir un certificat pour pouvoir faire le sport. Alors concrètement, l'asthme se traduit par exemple des quintes de toux, une respiration qui va être sifflante, une sensation quelquefois d'oppression thoracique et puis des difficultés respiratoires. Voilà les signes vraiment qui définissent un asthme.
Alors certains adultes, les plus anciens, se rappellent dans leur enfance que ceux qui souffraient d'asthme, les jeunes, n'avaient pas le droit de faire du sport, ils avaient une dispense. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Finalement, le sport, est-ce que c'est bon ou pas lorsque l'on est asthmatique?
Alors oui, Caroline, historiquement, le sport était contre-indiqué. Parce qu'en fait, le but, c'était d'éviter la crise d'asthme induite par l'exercice. En fait, il faut savoir que lorsqu'on est asthmatique et qu'on débute un exercice brutalement, eh bien, on peut déclencher une crise d'asthme. Une fois celle-ci passée, on sait qu'on peut continuer le sport sans problème. Mais en tout cas, c'est extrêmement, effectivement, désagréable de vivre cette crise. Alors, c'est pour ça qu'historiquement, on empêchait les enfants de faire le sport. Mais aujourd'hui, on sait qu'au contraire, le fait de faire régulièrement une activité physique repousse ce seuil d'apparition de cette crise d'asthme induite par l'exercice. Et donc, on prescrit vraiment de l'activité physique, surtout depuis les années 90, aux enfants asthmatiques. Et puis, on sait que ça a d'autres bénéfices. Ça améliore la forme physique, la tolérance à l'effort. Et donc, le sport n'est plus contre-indiqué chez les enfants asthmatiques. Au contraire, il est même bénéfique.
Mais il y a peut-être des précautions à prendre, docteur Sen, quand on est asthmatique et qu'on veut faire du sport?
Absolument, mais il faut éviter de le faire par temps sec et froid. Et par exemple, avant de débuter une séance, il faut vérifier qu'on se sent bien. Bien sûr, si on est en crise, il faut pas le faire. Vérifier aussi les conditions atmosphériques. S'il y a un air pollué ou saturé de pollen, il faut éviter de le faire. Ne pas oublier d'avoir son traitement de la crise, le fameux spray que l'on prend pour pouvoir redilater les bronches. Et puis, il faut essayer de faire du sport très progressivement, en s'échauffant bien, avec un début et un arrêt qui ne sera pas brutal, mais progressif. Bien respirer par le nez pour réchauffer l'air, et puis moduler son effort en fonction de son état. Alors, si également vous sentez que vous avez de la fièvre, de la toux, que vous êtes en période de crise, bien sûr, on ne fait pas d'effort, il vaut mieux retarder un petit peu cet effort un autre jour.
Docteur Jean-Marc Sen, des conseils maintenant. Quel sport, justement, vers quelle discipline aller quand on est asthmatique?
Ben, on peut dire, Caroline, que tous les sports peuvent être pratiqués, tant qu'ils ne provoquent pas de gêne respiratoire. Alors évidemment, il y a quelques précautions à faire pour certains sports. Par exemple, la plongée sous-marine ou l'équitation. On sait que dans les bouteilles ou autour des manèges, il peut y avoir une concentration importante d'allergènes. Et donc là, il faut être tout à fait vigilant. Bon, néanmoins, si l'asthme est bien maîtrisé et puis que le médecin a vérifié tout ça, il n'y a pas de contre-indication à faire ces sports. Il faut essayer de faire des sports finalement où on peut maîtriser l'intensité de l'exercice. Par exemple, la natation, le tennis, la danse, pourquoi pas le judo aussi. Voilà. Donc tous ces sports sont très intéressants. Alors, on peut dire vraiment à nos auditeurs que plus ils pratiqueront du sport de manière adaptée, du sport ou une activité physique, eh bien mieux ils se porteront.
Merci beaucoup, docteur Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassen, Sigrid Azéroal et Didier Bleu. Et demain, nous allons parler des relations fraternelles. Bonne journée à tous et à demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.